L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est David Tchoupina, président de l'association Les Oubliés de la Mémoire, une association qui travaille à la reconnaissance de la déportation pour homosexualité, aux victimes de la déportation pour homosexualité, et auparavant secrétaire adjoint de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme au Conseil de l'Europe, et aussi président de la station à Strasbourg, le centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe. David Tchoupina, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Alors, on va être honnête, nous étions rencontrés lors de la pause de Stolperstein à la mémoire d'un couple d'hommes franco-allemands persécutés par les nazis. C'est place Kléber, rue des Grandes Arcades précisément. Alors, la reconnaissance au cœur de votre engagement pour vous, les oubliés de la mémoire. Alors, on voit en soutien, vous êtes créateur de la station. Vous avez été longtemps directeur. Racontez-nous ça.
Oui, alors, je n'ai pas été le fondateur de la station. J'ai rejoint la station au moment de son ouverture, donc à son inauguration. En 2011 et rapidement je suis devenu son président pour trois très belles années de militantisme puisque c'était les années où on se battait pour l'accès au mariage pour tous, le droit au mariage étant un droit fondamental, c'était une époque très importante pour l'avancée des droits LGBT, mais je dirais pas seulement pour l'avancée des droits LGBT, pour l'avancée des droits de la société dans son ensemble, c'est bien ce que la ministre Taubira avait d'ailleurs expliqué en son temps. J'y suis resté 3 ans, j'ai ensuite fait une pause pour prendre la direction des Oubliés de la Mémoire, donc l'association que vous avez citée, qui a son siège à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation à Paris, et qui vise effectivement, comme vous l'avez rappelé, à la reconnaissance du motif d'homosexualité dans la déportation. Non pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que ce sont les nazis qui ont créé cette nomenclature que vous connaissez bien, des triangles, dont le triangle rose. Et ça a été quelque chose d'extrêmement difficile à faire reconnaître, y compris parmi les associations de survivants, de rescapés de la Shoah et des camps de concentration. Mais nous avons quand même réussi à obtenir la reconnaissance de l'État. Et depuis lors, nous participons à toutes les cérémonies, toutes les commémorations qui participent à cet objectif, dont celui de la pause de Stolperstein, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à Strasbourg. Je tiens à souligner que c'est une première.
Oui, première française.
Une première française. C'était déjà le cas en Allemagne, mais pas encore en France. Et Strasbourg s'honore. Je salue quand même aussi la participation de la ville de Strasbourg. Strasbourg s'honore à reconnaître qu'un couple homosexuel franco-allemand, ce n'était donc pas évident, puisque l'un était policier et a été assassiné, il a été tué pour le motif d'être un policier nazi qui ne pouvait pas s'engager dans des activités homosexuelles avec une personne de nationalité étrangère. L'autre conjoint a survécu, mais je crois que c'était extrêmement important de reconnaître cet état de fait, qu'il pouvait y avoir d'amour même au-delà des divisions de classe, de race, hein, cette reconnaissance, j'espère qu'elle sera apportée dans d'autres villes françaises. Paris, pour l'instant, on n'accepte pas la pose de Stolperstein, mais on peut
pas
imaginer...
Pas du tout de Stolperstein, ou pas de Stolperstein à la mémoire
d'homosexuels? Pas de Stolperstein.
Du tout.
Paris dans une autre démarche, mais on espère que d'autres villes françaises s'inspireront de ce modèle pour les couples homosexuels ou les homosexuels qui ont été persécutés.
Vous sentez, vous, aujourd'hui, porteur de la mémoire de ces personnes qu'on a oubliées? Alors, je sais que l'adjointe à la maire, Floriane Varieras, disait qu'ils n'ont pas eu de descendance, donc peut-être que ce travail de mémoire familiale n'a pas été fait et que ces histoires tragiques, dramatiques, se sont un peu perdues au fil du temps.
C'est très juste. Nous ne sommes pas une association de survivants, de témoins directs ou indirects. L'initiative revient à Pierre Zell, qui a été le premier déporté homosexuel français reconnu par l'État en tant que tel, et donc avec les droits afférents à son statut de déporté. Mais effectivement, il n'y a pas eu de transmission familiale. Comme vous l'avez dit, l'homosexualité était souvent cachée. Et il n'y a pas eu de transmission de génération en génération de cette mémoire. C'est en fait personnes travaillant sur ces questions de la déportation de l'homosexualité qui ont vraiment porté cette mémoire. Et moi, je me sens aussi porteur de cette mémoire, même si je n'ai pas cette histoire tragique dans ma famille, dans mon patrimoine. C'est une difficulté, c'est ce qui nous a aussi causé beaucoup de tort pour la reconnaissance par les associations de survivants. Mais finalement, notre combat a été reconnu comme légitime. Aujourd'hui, nous participons à la rédaction du message annuel de la Fondation de mémoire de la déportation pour la Journée internationale de la mémoire de la déportation. Donc ce travail n'est pas achevé, c'est un travail qui continue comme tout travail de mémoire. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. Et effectivement, je continuerai avec mes modestes moyens à apporter ce message dans les écoles, dans les établissements scolaires, parce que je pense qu'il est important que les générations actuelles, qui sont de moins en moins formées à ces questions, hein, les études révèlent que les jeunes ont de moins en moins connaissance des faits qui se sont produits pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier des horreurs de la déportation, de la Shoah. On voit qu'il y a une ignorance importante d'une partie importante de ces lycéens, de ces collégiens. Ils ont pu en entendre parler de façon très rapide dans des cours d'histoire. C'est vrai qu'on insiste moins sur cet aspect des choses au profit de la colonisation aujourd'hui et d'autres thèmes récurrents. Mais je crois que c'est très très important de continuer cet effort pédagogique de la part des professeurs, mais aussi des intervenants extérieurs comme moi-même.
Pour revenir à la reconnaissance des déportés LGBT, les oubliés de la mémoire, l'association. Comment est-ce que ça a été accueilli par les dirigeants des autres délégations de déportés des victimes des nazis? Comment ça a été, vous avez été accueilli? Ça a été une évidence parce que, au même titre évidemment que les personnes handicapées, les tziganes, alors on sait que la communauté juive a été reconnue, qu'aujourd'hui il y a un travail important qui a été fait, travail de mémoire, pas assez, puisque vous le disiez, hein, il y a toute une génération aujourd'hui qui n'est pas au courant, mais vous, en tant qu'association homosexuelle, enfin, travaillant pour la mémoire des victimes de l'homosexualité, comment est-ce que vous avez été accueillis ?
Assez froidement, c'est ce que j'essayais de vous faire comprendre tout à l'heure. D'abord, nous ne sommes pas les héritiers directs de cette histoire, ni même indirects. C'est grâce aux recherches, notamment de témoignages, mais aussi de personnes encore vivantes. Aujourd'hui, ce n'est pratiquement plus possible. On a essayé d'enregistrer les témoignages de personnes qui ont bien voulu parler. Mais en raison de la spécificité de leur vie privée, puisque ça reste de la vie privée, on a eu quand même des difficultés à être reconnu par ces associations. Il y a aussi eu, pendant la guerre, toutes sortes d'horreurs qui ont aussi été commises par des personnes qui étaient en charge des prisonniers dans les camps de concentration. Des survivants ont pu se souvenir d'actions de harcèlement, voire d'agression ou d'attaques sexuelles. Qui sont évidemment répréhensibles, mais qui ne sont pas forcément le fait de personnes homosexuelles, qui ont fait des conditions, sont le fait des conditions de vie dans ces camps qui étaient dramatiques. Et donc il y a eu certainement de mauvais souvenirs aussi de ces actes, de ces attaques, de ces agressions qui concernaient autant les hommes que les femmes par ailleurs. Et donc une difficulté à discerner ce qui relevait de la souffrance vécue par les personnes homosexuelles déportées dans les camps de travail ou les camps d'extermination, d'actes isolés qui ont pu être commis par des capos qui étaient donc les supplétifs des nazis dans les camps.
Les droits LGBT, aujourd'hui, on va faire un grand bond à aujourd'hui, une réelle reconnaissance, le mariage pour tous, c'est ok, le mémorial aujourd'hui à Paris pour les droits homosexuels, c'est ok. Aujourd'hui, il y a encore quand même une parole homophobe qui est libérée. En fait, de fait de la visibilité de cette communauté, ça a libéré une forme de haine. Aussi, vous faites attention à ça, c'est quelque chose dont vous prenez compte dans toutes vos actions, dans ce que vous faites, dans vos écrits, dans vos prises de parole ?
Oui, tout à fait. Je crois qu'on peut distinguer différentes phases dans ce mouvement. La première, ça a été celle du droit à la tolérance, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de la bienveillance des autres personnes par rapport à une sexualité, par rapport à un amour. Il y a eu la deuxième étape qui était plus celle de la revendication de droits, non pas que des droits LGBT existent en soi, mais ils existent tout de même au sein des droits humains. Il se rattache toujours aux droits humains, aux droits de la personne et à la dignité humaine. Comme je vous le disais tout à l'heure, le droit au mariage est un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution. Donc il nous semblait évident qu'il soit reconnu à tous, qu'ils aient l'envie ou le choix de vouloir se marier ou non. Aujourd'hui, on est peut-être dans la troisième phase, pardon, on voit des revendications beaucoup plus militantes et plus liées à ce qu'on appelle la convergence des luttes. C'est quelque chose, à mon avis, qui est radicalement différent de ce qui a été porté jusqu'à aujourd'hui. Je dis que peuvent être victimes d'homophobie, non seulement des personnes homosexuelles, mais des personnes dont le comportement peut faire penser qu'il est de tendance homosexuelle, alors que ce n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, on a déjà vu des attaques de personnes hétérosexuelles qui étaient prises par erreur pour des homosexuels. Aujourd'hui, on voit des violences bien pires. On voit des jeunes hommes porter des t-shirts avec un sous-marin, être molestés, être attaqués au motif qu'ils seraient des fascistes parce qu'ils portent un sous-marin sur un t-shirt.
Alors là, excusez-moi, mais je ne comprends pas le lien avec le sous-marin. C'est un sigle d'appartenance ?
Ce n'est pas un sigle d'appartenance, c'est simplement un t-shirt avec un sous-marin français qui fait penser qu'on est d'un courant extrémiste, fasciste. Par ceux qui ne supportent pas l'armée. Mais aujourd'hui, on peut être fier d'arborer un t-shirt. On a le droit d'arborer ce que l'on veut en termes vestimentaires. Et pourtant, vous voyez bien que ce droit est remis en cause parce qu'on vous prête des intentions qui ne sont pas forcément celles de l'intéressé qui a été attaqué. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons tous souffrir, être attaqués, être agressés pour... des projections que font les personnes qui nous attaquent. Donc je crois qu'il faut tout relier à l'humanité, à notre humanité commune. Et c'est ça que je porte dans mes écrits, dans mes paroles. Je crois que c'est les droits humains que nous défendons tous. On ne dissocie pas certains droits de d'autres. On est là pour la défense de l'humanité en général et pour le progrès de l'humanité. Et ces convergences de lutte ne servent pas systématiquement le dessein d'un progrès de l'humanité. Et c'est cela qui m'inquiète. Alors évidemment, il faut toucher ces plus jeunes générations qui sont celles impactées par ces courants politiques pour leur expliquer qu'essentialiser les personnes, les réduire à une catégorie, aujourd'hui à une minorité, comme on a parlé de minorité homosexuelle, n'est pas le bon chemin pour avancer ensemble dans la société. Je rappelle que le mariage homosexuel n'a été possible que parce qu'une majorité hétérosexuelle a voté cette loi au Parlement. Voilà. Donc c'est faire comprendre à la majorité qu'il y a un intérêt à avancer ensemble. Et ce n'est pas stigmatiser, attaquer, systématiquement rabrouer et offenser les autres en les réduisant à une catégorie
parce que les droits humains
de discrimination.
Aujourd'hui auront effectivement toujours seront plus forts aujourd'hui que toutes ces luttes, ce sont les droits humains. Donc et évidemment vous parlez du mariage pour tous qui est un droit. Aujourd'hui, la catégorisation de LGBTQIA+, de chaque... je ne sais même pas comment m'exprimer, mais chaque groupement de personnes homosexuelles, ça, pour vous, c'est une bonne chose. On avait besoin de... pas de hiérarchiser, mais de mettre effectivement une étiquette sur chaque comportement sexuel.
Oui, ça rejoint un peu la question du deuxième mouvement dont je vous parlais, de la reconnaissance des droits. C'est-à-dire qu'on souhaitait visibiliser chaque communauté à l'intérieur d'une communauté qui est déjà minoritaire. Alors, on est dans la minorité de la minorité, si vous voulez. Pourquoi ? Pour n'exclure personne. C'était l'idée de la station, qui a quand même ce nom générique, la station, que moi je privilégie. Vous m'avez entendu parler de la station et pas du centre LGBT. Mais en même temps, effectivement, on doit faire en sorte que chacun se sente à sa place dans cette maison commune. Alors, pour nous, ça passe par la reconnaissance de ces initiales. C'est vrai qu'elles sont un petit peu longues et elles peuvent paraître un petit peu fantasques, puisqu'il y en a d'autres qui sont rajoutées, notamment à la station. On parle de centre LGBTI, centre LGBTIQ même, queer, reprenant un peu une expression générale, pas bien définie au contour, pas tout à fait précisée, mais qui est quand même importante aujourd'hui, qui prend un petit peu le dessus. Vous trouvez beaucoup de queer aux États-Unis et c'est venu également en Europe, même si c'est un anglicisme. On l'utilisait aussi beaucoup en France. Je crois que c'est un terme un peu parapluie sous lequel beaucoup peuvent se retrouver. Mais c'est vrai qu'à l'époque, disons de la Seconde Guerre mondiale, on parlait essentiellement de personnes homosexuelles, que ce soit une homosexualité féminine ou masculine, et on n'avait pas toutes ces catégories que vous évoquez. Alors, elles sont intéressantes pour la visibilisation de ces personnes, cela crée du débat, une certaine prise de conscience qu'au sein de la communauté homosexuelle, évidemment, il y a des individus, et chaque individu est libre de se définir de la manière dont il le souhaite. La reconnaissance par la société vient plus tard. Cela dit, le terme queer aujourd'hui me semble privilégié.
Aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle génération, de cette visibilité. Alors, évidemment, la marche des visibilités, la Gay Pride, il y a quelque chose aujourd'hui de festif et on a ce sentiment que c'est une grande communauté qui fait lien avec la jeunesse, quand même beaucoup, et qui a besoin de cette visibilité auprès du grand public. Ça ne représente pas ça, toute la communauté LGBT, la communauté homosexuelle. Aujourd'hui, pourquoi ce besoin de cette visibilité ?
Ce que vous dites est juste. C'est vrai que beaucoup d'homosexuels que j'ai connus à la station même ne se reconnaissent pas dans cette marche des fiertés, hein, comme on l'appelle ici à Strasbourg, marche des visibilités, qui dit bien son nom d'ailleurs, c'est-à-dire visibiliser toutes les tendances, tous les comportements, toutes les préférences en fait, et qui est un grand mouvement, comme vous le savez, où beaucoup de jeunes hétérosexuels viennent aussi défiler aux côtés des homosexuels, des LGBT.
C'est un moment toute la jeunesse
en soutien, et puis il y a aussi, il faut le dire, le côté festif, hein, le côté la fête, surtout par les grandes chaleurs, vous avez vu encore la fête de la musique. Plus sérieusement, effectivement, cette jeunesse qui est un petit peu en perte de repère a besoin de se visibiliser ou d'être visible, ce qui est légitime, je pense, car les jeunes sont génération, sont actuellement à la marge. Hein. Ce ne sont pas elles qui détiennent le pouvoir, ce ne sont pas elles qui détiennent le levier économique. On entend tous les jours parler de la réforme des retraites, c'est quand même, et du poids de la dette, c'est quand même eux qui la supportent. Donc on peut être tout à fait à l'écoute des revendications des jeunes. Je pense que c'est extrêmement important qu'ils aient des endroits où pouvoir s'exprimer, et ça peut être effectivement dans la rue. Le problème ici est celui de la radicalisation de ces jeunes. C'est-à-dire que dans leur volonté de se visibiliser, ils choisissent souvent des causes qui ne sont pas forcément les causes de la communauté homosexuelle, en tout cas de l'avancée des droits des personnes homosexuelles, mais d'autres causes parce qu'il y a aujourd'hui une tendance au décolonialisme, il y a une tendance en soutien à certains groupements. Et ces jeunes y voient effectivement une lutte commune, une lutte solidaire, mais c'est la façon dont eux-mêmes se voient, sans même avoir consulté les autres communautés, qui parfois, effectivement, les soutiennent parce que, d'un point de vue objectif, ils peuvent voir de manière favorable cette prise de position en leur faveur. Mais je ne suis pas certain, pour ma part, que cet amour soit tout à fait partagé entre ces différentes communautés. Je crois qu'il faut se concentrer sur des revendications qui fassent du sens. Il ne faut pas s'idéologiser. Je crois que les idéologies ont mené à de grandes erreurs. On en parlait tout à l'heure, l'idéologie nazie qui a mené quand même à des horreurs qu'on n'avait jamais vues en Europe depuis très longtemps. Ici, c'est pareil. On sait les dégâts qu'a provoqué la révolution culturelle chinoise en Chine. On voit d'ailleurs, en tout cas pour ma part, je reconnais les mêmes éléments dans ce qui est en train de se passer actuellement sur les campus des universités américaines. Mais ça vient aussi chez nous.
Oui. On va dire les choses. Il faut nommer les mots. Aujourd'hui, c'est la communauté LGBT qui a épousé ce combat pour Gaza avec des drapeaux palestiniens à chaque manifestation, dont la dernière, la marche des visibilités, la marche des fiertés. C'est toute cette jeunesse aujourd'hui qui milite pour la reconnaissance d'un État de Palestine. Alors, évidemment, moi je suis dans le respect total des convictions de chacun, sauf qu'aujourd'hui il y a un antinomisme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec les droits LGBT à Gaza, par exemple.
Oui, bien sûr. Je ne parlerai pas de toute la communauté homosexuelle. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les personnes homosexuelles ne rejoignent pas forcément la marche des fiertés parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas. Donc, je ne crois pas qu'il faille parler de la communauté homosexuelle dans son ensemble. Par contre, le phénomène dont je parlais et qui m'intrigue et qui m'inquiète en même temps est celui du communautarisme, hein, c'est-à-dire d'enfermer des individus dans des catégories, comme je le disais tout à l'heure. Alors, selon moi... Il ne devrait pas y avoir de drapeau d'aucun État, ni d'aucune nation, ni d'aucun peuple dans une marche des fiertés. Je crois que les seuls drapeaux qui aient leur place, et on en a inventé un bon nombre, sont ceux de la communauté LGBT. On a ce très beau drapeau arc-en-ciel qu'on a repris. Nous en avons d'autres, drapeaux de l'identité transgenre, non-binaire, etc. On en a une foule, donc on en a suffisamment assez. Pourquoi chercher des drapeaux de pays étrangers, si encore il y avait des drapeaux français, mais je crois que c'est pas nécessaire, parce qu'on n'est plus sur la reconnaissance du droit au mariage, par exemple, où on peut effectivement encourager les législateurs français à aller vers cette étape et se sentir français de cette manière aussi. Mais je crois que c'est une grave erreur. Ces drapeaux n'ont absolument pas leur place. Ces drapeaux sont connotés politiquement, ils ne sont pas neutres et n'ont rien à voir avec les combats de la communauté homosexuelle. Prendre parti pour Gaza, c'est pas tant prendre parti pour Gaza, selon moi, c'est prendre parti pour le Hamas. Ce n'est pas épouser la cause palestinienne, c'est pas épouser la cause des Palestiniens. Les Palestiniens sont les victimes du Hamas, il faut le dire. C'est une erreur que de soutenir ces factions politiques qui, comme vous l'avez rappelé, ne sont pas du tout favorables aux personnes homosexuelles. Je n'ai pas de chiffres à vous donner aujourd'hui, mais on sait que les homosexuels sont persécutés dans la bande de Gaza. On sait que des homosexuels venant des territoires occupés de Cisjordanie avaient trouvé refuge en Israël et finalement avaient été exfiltrés par leur famille et torturés et massacrés. Donc pourquoi épouser les causes de mouvements, de factions politiques? Oui, je ne parle même pas d'État. Je crois quelque chose qui avait déjà été initié aux États-Unis, notamment par Judith Butler, qui a fait ses preuves universitaires, juive antisioniste, parce que chez les juifs, il y a aussi, depuis longtemps, avant même bien sûr la création de l'État d'Israël, un certain nombre d'antisionistes, qu'on a pu d'ailleurs décrire comme des antisémites intériorisés. Aujourd'hui, il y a une corrélation entre l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est reconnu au niveau international, c'est communément accepté, même si certains le rejettent. Donc pourquoi, finalement, si je regarde la prise de position de ces jeunes qui sont quand même éduqués, qui reçoivent une éducation, qui vont à l'université, qui ont des parents éduqués, pourquoi cet amour, qui me paraît tout à fait artificiel, pour les causes que j'ai mentionnées? Je crois que c'est le même fondement que que cet antisionisme juif, c'est-à-dire c'est la haine de soi finalement. C'est la haine d'être blanc. On a tellement intériorisé la colonisation, et c'est ce que fait Judith Butler, que je m'entendais tout à l'heure dans ses écrits, qu'on en vient à se haïr soi-même. Seulement, lorsque je parle d'humanité, comment peut-on aimer les autres et aller vers les autres quand on ne s'aime pas soi-même? J'ai toujours demandé aux jeunes qui venaient, puisqu'on en recevait un certain nombre, la station était au centre-ville, et toujours au centre-ville, qui venaient à la station, je leur disais, mais aimez-vous, commencez par vous aimer. Peut-être que vous êtes rejetés par vos parents, peut-être que vous êtes rejetés par certaines communautés religieuses, et là encore, il y a un travail à faire, pas seulement par les musulmans, par d'autres religions également. dont on a bien vu l'opposition d'ailleurs au droit au mariage pour tous, commencez par vous aimer. Et ensuite, vous pourrez aimer les autres. Mais n'invectivez pas, ne harcelez pas, n'attaquez pas, comme on voit de plus en plus, malheureusement, en France et en Europe, les autres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Si vous voulez avoir un débat, ayez ce débat, argumentez, prenez position, mais faites-le dans un cadre démocratique.
Ils font partie aujourd'hui d'une communauté, ça leur permet... Les manifestants au drapeau de couleur de pastèque, ils font aujourd'hui partie d'une communauté, ils ont l'impression de faire partie d'un mouvement qui avance. C'est une façon d'être accepté, d'être aimé, tout du moins ils en ont l'impression.
Je crois qu'il y a surtout ce phénomène de radicalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire passer un message, on pense qu'il faut être radical, il faut être dans l'excès, et c'est de façon dont on aura des likes, c'est comme ça qu'on sera, que l'information sera propagée, qu'on sera aimé effectivement d'une certaine manière, comme vous le dites. Moi, je pense que c'est une erreur, je pense que c'est une supercherie. Je ne pense pas qu'il y ait un mouvement d'adhésion majoritaire dans ce pays vis-à-vis de cette forme de communautarisation. La France, certes, a un modèle un petit peu particulier, se distingue des autres pays, mais il y a tout de même un modèle européen, que ce soit de laïcité, de pluralisme démocratique, qui connaît aussi des limites par rapport à certaines libertés d'expression qui sont trop radicales. Aujourd'hui, on en est à interdire Palestine Action au Royaume-Uni, alors même qu'il y a un gouvernement travailliste au pouvoir. Donc on se rend bien compte qu'il y a un extrémisme incarné par... Alors je ne mets pas l'opprobre sur l'ensemble des jeunes, vous m'avez bien compris, mais ces jeunes-là, en tout cas, qui se trompent, à mon avis, de combat, ils ne l'emporteront pas de cette manière. Je pense qu'il faut revenir aux valeurs, peut-être à une certaine morale, à voir ce qu'on met derrière le mot moral, évidemment, c'est propre à chacun, mais qui s'ancre dans notre tradition démocratique. Je pense que la démocratie est le meilleur moyen de parvenir à l'obtention des droits, à la visibilisation de chacun, mais dans le respect de chacun.
Ce sera le mot de la fin. Merci David Tchoupina. Merci pour vos paroles. J'avais besoin d'entendre ça. Je pense que nos auditeurs aussi. Donc, je rappelle, vous êtes président de l'association Les Oubliés de la Mémoire. Évidemment, on va suivre vos actions au fur et à mesure que vous ferez des choses ici en Alsace, mais aussi sur tout le territoire national pour aujourd'hui mettre en avant Ces Oubliés de la Mémoire, l'association qui porte bien son nom. Merci en tous les cas d'être passé nous voir.
Merci à vous. Merci à vos auditeurs.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.